RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois.
Pierre-Hugues, votre invité ce matin est économiste et essayiste Nicolas Bouzou. Il publie « La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir ?» C'est chez XO Éditions.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF ce matin.
Avec plaisir.
Avenir incertain, inflation, hausse des taux bancaires, pauvreté, changement climatique, sans compter les catastrophes climatiques qui sont liées. Quand on observe l'état du monde, Nicolas Bouzou, pas de quoi être vraiment optimiste.
Oui, mais ça a toujours été le cas, en fait. On peut mettre le doigt au hasard sur une frise chronologique dans le passé, hein, et vous retrouverez beaucoup de problèmes. Tout ce que vous dites est vrai. Tous les problèmes que vous venez de souligner existent bel et bien, mais je voudrais faire deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que le monde ne se résume pas à ces problèmes. Vous avez aussi des fantastiques progrès dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, dans le domaine de l'accès à la culture, dans le domaine sanitaire aussi, hein, dans la lutte contre le cancer ou les maladies rares. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que je pense qu'on sous-estime notre capacité collective à répondre aux problèmes dont vous avez parlé, et notamment celui du réchauffement climatique.
Vous soulignez, pour commencer cet ouvrage, Nicolas Bouzou, quatre points qui m'ont beaucoup étonné. 1. La pauvreté extrême est sur la voie de l'éradication. 2. La santé humaine s'améliore, surtout dans les pays les plus pauvres. 3. Presque toute l'humanité est alphabétisée. 4. Le monde est de plus en plus égalitaire. Par exemple, ce dernier point, le monde est de plus en plus égalitaire.
Ouais.
C'est pas ce qu'on entend.
Ah ben non, c'est pas du tout ce qu'on entend, et c'est bien là-dessus que porte ma critique, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. C'est-à-dire le fait que quelqu'un d'aussi informé et précis que vous ait été étonné montre bien qu'aujourd'hui le débat public renvoie une image de la réalité qui est déformée. La question des inégalités est très intéressante parce qu'elle est parfaitement documentée. Elle se mesure par des statistiques au fond. Donc on a des choses objectives. La réalité, c'est que dans le monde, les inégalités diminuent très rapidement, tout simplement parce que les revenus augmentent beaucoup plus dans les pays pauvres. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les inégalités de santé dans le monde se réduisent. Il y a une convergence des espérances de vie. Tout ceci est lié à la convergence des espérances de vie. Elle est liée aussi à la diminution des inégalités en matière de revenus. Mais si vous prenez un pays comme la France, on a pu noter aucune explosion des inégalités, ces 20 ou 30 dernières années, en France, qui est un pays extrêmement redistributif. C'est même le pays le plus redistributif tous les pays de l'OCDE, de tous les pays riches. Ça veut dire que les impôts sont progressifs, donc les riches payent beaucoup d'impôts, et la redistribution est extrêmement forte à l'égard des plus fragiles de nos concitoyens. Donc la situation n'est pas aussi catastrophique que ça.
Est-ce qu'on n'a pas aussi un biais français ? C'est-à-dire que nous, on ne voit pas l'amélioration significative de nos conditions de vie par rapport peut-être à la génération de nos parents, quand d'autres pays, et peut-être la majorité des pays du monde, a un niveau de vie bien meilleur que celui de ses parents.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que très clairement, la progression du niveau de vie aujourd'hui est beaucoup moins forte que durant les Trente Glorieuses. Pour une raison assez simple, c'est qu'on a quasiment pas de croissance. Quand vous avez 1% de croissance économique, vous ne pouvez pas avoir la même augmentation de revenus que quand vous aviez 4 ou 5%, ce qui était le cas, en effet, pour la génération de nos parents. Donc, c'était le cas jusqu'aux années 70. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai, mais je dirais que c'est quand même entre nos mains. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réformes qu'on pourrait faire en France, sur le plan économique, sur le plan de l'innovation, sur le plan de l'éducation, qui nous permettrait d'avoir davantage de croissance économique. Donc il n'y a pas de, vous avez raison, mais il n'y a pas de fatalité à ce problème.
Alors pour commencer, avant de venir aux motifs d'espoir que vous avez, et ils sont nombreux, arrêtons-nous déjà sur ceux que vous qualifiez de prophètes de l'apocalypse, le nom m'a amusé. Vous en identifiez trois, à commencer par les médias.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a des marchands de peur. Je pense même qu'il y a un lobbying de la peur. Les médias, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, captent l'auditeur ou le téléspectateur souvent par la mauvaise nouvelle ou par la catastrophe. Alors c'est plus vrai des chaînes d'infos en continu que des radios comme la vôtre, mais je veux dire, c'est très clair. Moi, je me souviens, je cite ça dans le livre, mais j'ai participé à beaucoup de débats sur la réforme des retraites. Et quand j'essayais de développer un propos sur comment augmenter le taux d'emploi des seniors, j'étais interrompu parce que il fallait vite aller filmer un feu de poubelle sur la place de la Concorde. Donc, on attrape finalement le téléspectateur et on essaie de le garder devant l'écran par le mauvais sentiment. Alors, il n'y a pas que les médias. Il y a bien évidemment les réseaux sociaux. Parce que les médias fabriquent, ont intérêt à produire de la peur, mais les réseaux sociaux la diffusent. Et il est parfaitement documenté, hein, c'est quelque chose qu'a bien montré le sociologue Gérald Bronner, par exemple, qu'une nouvelle se diffuse d'autant plus sur les réseaux sociaux qu'elle est catastrophique, indépendamment de son niveau de véracité. Et puis, il y a une troisième chose hein, qui est propre à la France, c'est la figure de l'intellectuel français.
Et oui, autant les médias et les réseaux sociaux, on se dit, bon, c'est pas forcément très intelligent parce qu'il faut attraper l'interlocuteur et l'auditeur, autant les intellectuels, on attend d'eux d'une parole vraie, pure.
Oui, mais elle n'est pas toujours pure, parce que l'intellectuel français, Raymond Aron expliquait ça très bien dans l'Opium des intellectuels, et je n'ai fait que l'actualiser en quelque sorte, mais la figure de l'intellectuel français est une figure révolutionnaire, c'est-à-dire qui est toujours en combat, en réaction contre la société, et donc aujourd'hui contre la démocratie libérale à l'occidentale, et donc par définition, ça va jamais. Par définition, c'était mieux avant. Quand Bernard Arnault veut verser 10 millions d'euros en Resto du Cœur, ça va pas parce que c'est pas assez, parce qu'il faudrait qu'il paye plus d'impôts, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait les Restos du Cœur, etc. Et donc, la conjonction des médias, de cette figure de l'intellectuel, ce sont des gens tout à fait brillants, hein, mais vous savez, avoir l'air inquiet donne l'air intelligent. Hein. Donc, cette figure de l'intellectuel dans les médias, amplifié par les réseaux sociaux, renvoie à nos concitoyens une image du monde qui est plus négative que ce que le monde est dans sa réalité.
Et il y a la parole politique aussi que vous accusez d'affadissement. Pourquoi ?
Oui, parce qu'on est dans un pays qui est très clivé, on est dans un pays dans lequel les politiques n'ont pas la culture du compromis, et donc les oppositions ne savent pas faire grand-chose d'autre que de critiquer en permanence le gouvernement, quel que soit le gouvernement. C'est vrai du gouvernement actuel, mais c'était vrai aussi quand François Hollande était président de la République ou quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Parce qu'on n'a pas cette volonté de réfléchir ensemble, et donc on a toujours cette petite musique hein, qui, selon laquelle rien ne va en France. Je vous donne un exemple très concret dans l'actualité qui me frappe beaucoup. Les Jeux Olympiques. Il y a une espèce de consensus pour considérer que les Jeux Olympiques à Paris, ça va être l'horreur, qu'il faut fuir Paris, que les transports vont pas fonctionner, qu'il y aura des problèmes d'insécurité. Enfin, c'est absurde. L'hypothèse la plus raisonnable, c'est que la France sait parfaitement organiser ce type d'événement, que les Jeux Olympiques vont être un formidable moment, et que franchement, si vous habitez Paris au moment des Jeux Olympiques, c'est quand même un moment historique. Mais c'est pas du tout ce que nous renvoie la petite musique médiatique.
Nicolas Bouzou, est-ce que c'est pas propre à la France ? J'ai une image qui me vient en tête. Ouais. C'est dans le film Rabbi Jacob, on voit Louis de Funès qui présente une deux chevaux qui est à côté de la sienne, il dit « Regardez, ça c'est propre, c'est français ». Et la personne en face qui commence à râler et le critiquer. Est-ce que c'est pas propre aussi à la France d'avoir ce discours extrêmement exigeant, avoir cette critique facile ?
Ouais, c'est très drôle. Et vous avez raison. C'est-à-dire que, en effet, ce qu'on dit sur les médias, sur les réseaux sociaux, ça n'est pas propre à la France. Mais il y a un petit supplément d'âme en France qui est notre côté cartésien, le doute cartésien. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans la critique. Tout le temps, on est en permanence dans la contestation. Alors, d'une certaine façon, c'est sympathique, hein. Enfin, voilà, ça fait partie des charmes de notre pays. Mais ça génère un climat qui est un climat négatif et un grand climat d'anxiété. Et moi, ce qui me frappe en France, et je le vois dans le débat public, hein, c'est que le sentiment dominant, c'est la peur. On a peur de tout. On a peur de l'effondrement écologique, on a peur de l'intelligence artificielle, on a peur de l'effondrement de l'Occident. Mais je peux démontrer point par point, d'ailleurs je le fais dans le livre, que ces peurs, que ce dont je parle, ce sont bien des problèmes. Hein. Je suis quelqu'un de lucide, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce sont des problèmes que nous avons la capacité de résoudre. Y compris le réchauffement climatique.
Nicolas Bouzou, de votre côté, vous pensez effectivement que le discours décliniste est trompeur. Alors, je vais vous poser cette question très simple. Qu'est-ce qui va bien dans le monde ?
Alors, déjà, il y a des choses objectives, dont ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, la malnutrition n'a jamais été aussi basse, la très grande pauvreté n'a jamais été aussi basse, l'espérance de vie, y compris en bonne santé, n'a jamais été aussi importante. Mais je vais prendre deux exemples concrets. Le cancer. Moi, j'étais très frappé la semaine dernière quand il y a eu l'annonce du cancer de Charles III. Là encore, tous les médias ont dit quand ça va se passer sa succession, etc. Si on avait voulu ouvrir un tiroir, je dirais un peu moins négatif, mais surtout plus réaliste, on aurait dit. Mais le cancer, aujourd'hui, plus de la moitié des gens en guérissent et n'en entendront plus jamais parler. Pour le reste, de plus en plus de gens vivent avec. Et il y a des progrès absolument extraordinaires qui sont en train d'accélérer en ce moment. Et donc, c'est ça la réalité du cancer aujourd'hui. C'est-à-dire que cancer n'est plus associé à mort. Voilà. Bah ça, c'est quand même quelque chose qui est formidable. Pareil pour les maladies rares que l'on traite et que l'on guérit d'ailleurs bien souvent de la façon très efficace. Mais je vais prendre un exemple plus polémique, je dirais. J'y reviens un instant. La question du réchauffement climatique. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un problème n'a été pris autant à bras le corps que la question du réchauffement climatique. Vous pouvez regarder dans le passé, ça n'est jamais arrivé.
Heureusement.
D'ailleurs, oui, mais enfin, c'est quand même pas rien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on fait des progrès extraordinaires. Le photovoltaïque, par exemple, le coût de production du photovoltaïque ou même des énergies renouvelables en règle générale baisse beaucoup plus vite que prévu. En Europe, en 2023, on a fait plus d'électricité à base d'énergie renouvelable. Hein, je parle même pas du nucléaire. Que de charbon ou même de gaz. Donc vous voyez que dans le domaine écologique, contrairement à ce qu'on dit, les choses vont dans le bon sens. Et puis, dernier mot, l'intelligence artificielle. Là encore, je lis le journal, on nous dit l'intelligence artificielle nous fait courir un risque vital, elle va se retourner contre nous. Tout ça, ce sont des fantasmes, mais ça repose sur rien. ChatGPT ne va pas vous menacer ni vous étrangler, ça n'existe pas. Le sujet de l'intelligence artificielle, c'est comment on l'utilise pour nous aider à mieux enseigner, à étendre l'accès à la culture, à mieux soigner. Donc, si on sait bien l'utiliser, c'est un outil fantastique.
Vous dites notamment que pour retrouver confiance dans l'avenir, il faut aussi réapprendre l'esprit des Lumières. Ça veut dire quoi, réapprendre l'esprit des Lumières ?
Ah oui, on est dans une période romantique, on est dans une période baroque. Bon, il y a des cycles, hein, c'est normal, mais on est en train de perdre un peu l'esprit de la rationalité, si vous voulez. Et ce qui nous permet d'embrasser l'avenir avec confiance, alors moi, c'est tout mon combat, c'est tout ce à quoi je crois, mais c'est la raison, c'est la discussion argumentée, c'est la foi dans le progrès, c'est la liberté aussi, bien évidemment, c'est l'innovation. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on retrouve cet esprit de la raison, cet esprit scientifique. Vous voyez, quand je vois des jeunes filles, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais quand je vois des jeunes filles balancer de la nourriture contre un Monet pour alerter contre le réchauffement climatique, je trouve ça ridicule. C'est pas de leur faute d'ailleurs, elles sont très jeunes. Le problème est celui des adultes qui racontent n'importe quoi, etc. Mais c'est exactement l'inverse. La question du réchauffement climatique, c'est une question scientifique. Il faut y réfléchir. Il faut des gens qui travaillent sérieusement là-dessus. Donc c'est cet esprit qu'il faut retrouver. Et c'est dans la tradition française et européenne. Hein, c'est quand même notre identité.
Merci beaucoup, en tout cas Nicolas Bouzou, d'avoir été ce matin sur RCF. Je rappelle que vous publiez La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir. C'est publié chez XO Éditions.